Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Okapi Service, le monde a célébré le 3 mai. Le monde célèbre le 3 mai de chaque année, la journée consacrée à la liberté de la presse. Cependant, l'exercice du métier de journaliste n'est pas sans danger, surtout lorsqu'il s'agit de mener des investigations sur les affaires telles que les détournements des fonds publics, la corruption, etc. Par crainte des représailles ou de perdre leur vie, de nombreux professionnels des médias congolais n'osent pas s'hasarder sur les terrains de journalisme et d'investigation. Voilà, on en parle aujourd'hui dans cette émission avec nos invités. Nous avons déjà en ligne Jean-Pierre Ilboudeau, représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Monsieur Jean-Pierre Ilboudeau, bonjour.
Oui, bonjour à Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service. Alors, à l'occasion de la journée de la presse, nous vous accueillons aujourd'hui pour parler du métier des journalistes, comment exercer son métier sans crainte ni complaisance. D'abord, la première question est de savoir pourquoi ce choix des thèmes, le choix de ces thèmes pour cette célébration.
Bien, l'UNESCO a choisi ce thème en se basant sur les thèmes précédents qui, je crois qu'à la 10e édition également, la question était de faire en sorte qu'il y ait un journalisme professionnel. Mais cette fois-ci, nous avons choisi ce thème dans un contexte particulier qui est le contexte donc de la pandémie. Et le contexte de la pandémie nous amène effectivement aussi à voir que nous sommes dans une situation qui est un peu particulière. On est dans l'inquiétude, on est dans l'incertitude. Et vous savez que l'information libre est essentielle en ce moment-là pour faire face à la crise, pour la comprendre et surtout la penser et surtout la surmonter. Donc on mesure l'importance, j'allais dire vitale, d'informer, c'est-à-dire donner à chacune et à chacun des moyens de lutter contre la maladie en adoptant des comportements adéquats. Mais également, il y a le fait que nous voulons également au niveau de ce contexte-là, oui, avec toute la famille des Nations Unies, lutter contre l'infodémie, donc toutes les rumeurs et les fausses informations qui aggravent la pandémie. Ça, c'est un grand problème que nous avons aussi. Et enfin, nous sommes arrivés au stade où, si vous regardez les chiffres, il y a beaucoup d'agressions, beaucoup d'harcèlement, beaucoup de menaces, beaucoup d'assassinats des journalistes, plus d'une centaine ces dernières années. Et la grande question pour nous, c'est comment faire pour que les journalistes soient dans un contexte de sécurité, de sûreté, qu'ils puissent exercer leur métier sans crainte, c'est-à-dire qu'ils soient protégés. Et si nous n'arrivons pas à le faire à travers des instruments, j'allais dire juridiques clairs, dans les différents pays, ça pose problème. Et la complaisance, c'est lorsque, effectivement, également, les journalistes acceptent de prendre, comment on appelle, j'ai entendu un mot ici à Kinshasa,
le coupage, oui.
Bon, il faut qu'on soit clair. Quand les journalistes n'ont pas un salaire décent, ils sont exposés à ce que moi j'appelle la corruption. On va leur donner des enveloppes, ce qu'on appelle en anglais « brown envelopes ». Et ça pose un grand problème parce qu'en ce moment, la complaisance et l'indépendance éditoriale donc pose problème. Voilà un peu quelques raisons qui justifient le choix de ce thème.
Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour nous sommes à l'ère de numérique, nous voyons beaucoup de fake news, beaucoup de fausses nouvelles circuler. Tout le monde s'est fait journaliste aujourd'hui. Les gens publient des informations qui font peur, des informations alarmistes sur le Covid-19 aujourd'hui. Alors dans ces contextes, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le journaliste peut faire concrètement? Parce que tout le monde s'est fait journaliste et tout le monde peut publier des informations.
Bon, moi je pense que cette 27e journée mondiale sera donc l'occasion vraiment de poser la question des mesures à prendre pour garantir l'indépendance des journalistes. Ça nous renvoie à la déclaration de Windhoek en 1991, où la presse africaine a réclamé une presse libre, indépendante et surtout pluraliste, parce qu'à l'époque c'était la voix de son maître, il y avait qu'un seul média dans la plupart des pays africains. Donc je crois que ce qui est important, pour qu'il y ait une liberté de la presse, il faut que les lois dans chaque pays africain puissent offrir des garanties solides, hein, de protection de la liberté de la presse. Or, c'est ça qui manque. On a des chiffres qui montrent que très peu de pays ont ces lois-là, surtout la loi sur l'accès public à l'information, et ça pose problème. Donc, je pense que le journalisme indépendant et professionnel est associé à une magistrature indépendante également. Si les magistrats ne sont pas indépendants, c'est difficile qu'on ait aussi un journalisme indépendant. Donc, c'est pourquoi je pense que, franchement, l'influence de l'Internet dont vous parlez tantôt, sur le travail des journalistes, sur l'indépendance auquel doivent faire face les journalistes, il y a de nouveaux défis auxquels doivent faire face les journalistes. C'est-à-dire, l'influence des internautes dont vous parlez, dans la production des contenus, parce que vraiment, il y a de faux contenus. En fait, il y a des spécialistes maintenant de fake news. Ils se lèvent le matin, et qu'est-ce qu'on va trouver?
Oui.
Je disais une fois, Mbilia Bel est morte. La brave dame elle est vivante. Elle est à Bruxelles. Elle dit non, mais je suis pas mort. Gohou est mort. Bon, ouais, des trucs comme ça qu'on envoie sur les, c'est pas correct. Donc, il faudrait que on fasse attention à ça et au discours de la haine qui également harcèle. Il y a un harcèlement numérique, on peut dire, et surtout des femmes journalistes qui sont harcelées. Dans les intérêts privés qui prennent le devant sur les intérêts publics. Et, notamment, donc, j'allais dire l'ODD 16.10. qui garantit l'accès public à l'information, mais surtout qui également protège les libertés fondamentales. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait que nous puissions développer de nouvelles stratégies pour faire face aux menaces anciennes et nouvelles pèsent sur l'indépendance des médias. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit oui, il faut faire la part des choses. Il y a des blogueurs, il y a la presse en ligne qui est très responsable, qui vérifie ses sources. Et surtout, faire en sorte que les journalistes soient formés à reconnaître ce qui est faux du vrai. Donc, il faut trier entre le blé et l'ivraie. Il faut donc jeter l'ivraie et garder le blé. Sinon, ça pose problème. Et ça, cette formation-là est importante. Nous avons sorti un certain nombre de fascicules, de manuels sur la formation des journalistes sur les fake news, que nous allons donc quand même initier en RDC très bientôt, dès que la situation aura une petite accalmie, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Et surtout, nous-mêmes, en tant que journalistes, nous départir de la paresse. À l'époque, on avait des téléscripteurs qui vous crachaient des informations, AFP, TAS, Reuters, UPI. On coupe les dépêches et on les réécrit. Maintenant, avec l'Internet, il y en a qui ne font pas d'efforts. On ne réécrit pas, on va juste prendre ce qu'il y a là et on diffuse. Là aussi, il y a un travail de déontologie et d'éthique. Il faut que nous sachions que notre travail, là, c'est un travail qui engage des responsabilités par rapport aux autres et qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui le font, beaucoup de journalistes le font, et ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est autant d'éléments sur lesquels nous reviendrons dans la formation que nous avons proposée, donc à l'UNPC et à la presse congolaise pour vraiment amener les gens à être outillés par rapport donc à ces fake news. C'est ce qu'on appelle citizen journalistes qui, bon, c'est pas tous qui sont vraiment sérieux. Mais maintenant qu'ils sont bons dedans, il y a des blogueurs qui permettent d'avoir cette alternative d'ouvrir plus d'informations. Il y a la presse en ligne aussi, il y en a qui sont très sérieux dedans, qui vérifient, mais je crois que de plus en plus, nous sommes menacés vraiment par beaucoup de fausses informations.
Oui, Monsieur Jean-Pierre Iboudo, le thème de cette célébration, c'est exercer le journalisme sans crainte ni complaisance. Or, aujourd'hui, dans notre pays, bon nombre des journalistes ont peur de se lancer dans le genre qu'on appelle le journalisme d'enquête ou le journalisme d'investigation, parce que les gens ont peur d'y laisser leur peau ou soit de faire l'objet des menaces. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir ces genres journalistiques en RDC, le journalisme d'investigation?
Bon, moi je pense que la première condition, c'est qu'on ait un environnement médiatique libre, pluraliste et indépendant, pour les journalistes en ligne et hors ligne, qui vont donc s'engager dans ce qu'on appelle le journalisme d'investigation. Et cet environnement est indispensable à la défense même de la liberté d'expression en tant que droit fondamental. Donc, c'est la pierre angulaire de toute société démocratique, Si nous voulons vraiment un état de droit, il faut d'abord que nous ayons donc cet environnement-là, médiatique, qui soit libre, indépendant et pluraliste. Il y a une corrélation très forte. Mmh. Et ça nous permet également de réaliser donc les auditions le plus tôt possible. Donc la loi doit protéger les journalistes, et dès que la loi protège les journalistes, ils peuvent en ce moment enquêter. Voyez-vous ? Ils peuvent en ce moment enquêter et surtout faire en sorte que les pouvoirs politiques soient redevables, qu'il y ait une transparence. Ils peuvent s'engager en ce moment dans la lutte contre la corruption et la protection des journalistes indépendants, ma foi, reste vraiment une préoccupation majeure maintenant, compte tenu de ce que nous savons au niveau donc de tous les pays africains, où il y a parfois une gouvernance qui n'est pas exemplaire.
Bien, on va accueillir les auditeurs qui appellent dans cette émission. Nous avons en ligne Platini Mbombo depuis Mbandaka, il est journaliste. Bonjour Platini.
Bonjour, bonjour, chers confrères. Je salue tous les journalistes à travers le pays.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, jeudi. Je voudrais vous rassurer que je suis vraiment très heureux parce que la thématique nous concerne. Alors, jeudi, je crois que par rapport à la thématique du jour, j'ai bien suivi l'invité qui est au sud avec vous. Et jeudi, je crois que nous, les hommes des médias qui sont ici, dans la province ou à travers le pays, il y a un problème. Parce que c'est que moi, je sais que il y a des sortes de journalistes. Il y a ceux de journalistes d'investigation, il y a ceux de journalistes indépendants, il y a ceux de journalistes qui font ce qu'on dit, écrivain, quoi, dans les journaux, tout ça. Mais maintenant, là, il s'impose un sérieux problème parce que moi, comme je suis là, je suis à la E-Radio, et maintenant ici à Mbandaka, c'est une radio privée. Pas un homme politique, mais c'est une radio privée de quelqu'un, tout ça. Et ici, nous avons aussi des sortes de radios qui appartiennent des ONG, tout ça. Mais ce qu'on sait, qu'il y a seulement une seule radio de l'État, ce qu'on dit la RTNC. Mais maintenant, là, il y a une certaine système qui est un peu à double casquette. Je peux vous dire que je suis dans une radio privée, mais quand le propriétaire, le promoteur lui-même dit que monsieur fait ça, ou bien parle ça. Donc, vraiment, tu es obligé de respecter tout ce qu'il lui a dit. Et si vous pouvez cesser un peu de manières, tout ça, vous dites que non, il peut vous chercher sur la radio. Et des deux. Moi, ce que je constate, surtout nos confrères qui fonctionnent au niveau de la radio publique de l'État, c'est-à-dire de la RTNC, c'est une radio qui est payée par le gouvernement congolais. Mais vous allez constater que ces journalistes qui est au niveau de la RTNC commencent à faire ce qu'on appelle les ping-pong, les jeux de ping-pong, les molos, Koukoumissa, tout ça, pour dire l'équipe en haut, tout ça. C'est ça aussi ce qui recadre un peu le système des journalistes à travers le pays. Aujourd'hui, je crois, moi j'ai un exemple ici dans la ville de Mbandaka où là moi je suis. Je crois qu'à l'époque, je peux citer les noms, à l'époque, le gouverneur Jean-Claude Mahéné, j'ai été arrêté. Pourquoi? Parce que j'étais au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour faire les reportages. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle la divergence entre le député provincial, entre le gouvernement. Ça, c'est un problème. On m'a arrêté, on m'a arrêté tous les téléphones, les caméras, par-ci, par-là. J'ai été même incarcéré. Mais, dans ces cas-là, je suis plaidé, c'était aussi à l'époque, à travers votre radio, et la radio Capi, je suis plaidé, mais je n'ai jamais eu de fils qu'une assistante d'une part de la part du gouvernement. C'est pour laquelle nous, les hommes des médias, nous sommes dans un lourd travail, malheureusement, on est un peu bloqués.
Merci. Merci Platini. Merci Platini. D'accord, parce que nos lois ne protègent pas suffisamment les journalistes. On va donner la parole à Héritier de Bounia, à Nitouri. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Héritier?
Comment lutter contre les assassinats faits aux journalistes? Parce que dans plusieurs entités, lorsqu'il y a manifestation, bien lorsqu'on organise les élections, il y a plusieurs journalistes qui subissent des tortures ou des maîtres. Alors comment faut-il lutter contre toutes ces individualaires là qui sont commis aux journalistes?
Voilà, des assassinats des journalistes et les arrestations. D'ailleurs, Radio Okapi a perdu aussi deux de ses journalistes, Serge Maéché et Didas Namujimbo, qui ont été assassinés à Bukavu. Nous allons accueillir Shadrach de Mbujimaï. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, je tiens à féliciter tous les journalistes de la Radio de la Paix. Ainsi, tous les journalistes de l'ensemble de la République qui travaillent en bonne et due forme. Voilà un peu mes trois préoccupations que je voudrais adresser à l'invité. La première préoccupation est celle de savoir quels sont les éléments que doit recueillir une personne pour devenir journaliste? Ça, c'est la première des questions. La deuxième des choses, est-ce le métier de journalisme est statique ou dynamique? Troisièmement, est-ce un journaliste peut-il être politique ou apolitique? Voilà mes trois petites préoccupations, j'ai dit, et je vous remercie.
Bien, merci, monsieur Jean-Pierre Ilboudo, vous avez la parole.
Bon, est-ce qu'un journaliste doit être apolitique ou, je pense qu'un journaliste doit être neutre. Neutre, ça veut dire que le journalisme est un métier qui est basé sur des faits. On relate des faits, pas des opinions. Et je pense qu'il serait bon que les journalistes sachent qu'ils peuvent avoir leurs opinions politiques. Ils peuvent militer dans un parti, ça c'est leur droit en tant que citoyen. Mais dès lors qu'il s'agit de leur métier, ils ne peuvent pas faire sortir cela, mettre en avant. Ça c'est interdit. Donc il doit être apolitique dans ce cadre-là. Maintenant, l'autre question qu'il a posée, est-ce que le journalisme est un métier dynamique ou statique? Le journalisme est un métier très dynamique. Pour rester journaliste, il faut rester cultivé sans arrêt. Vous ne pouvez pas être journaliste et ne pas lire tous les jours. Vous devez lire, vous devez cultiver, parce que pour informer, il faut être mieux informé que vos auditeurs. Donc c'est un métier qui est dynamique. Il faut aussi s'adapter aussi au contexte. J'allais dire, il faut s'adapter à l'évolution même des technologies. Évidemment, nous sommes dans l'ère numérique, comme disait jeudi. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les journalistes aussi s'adaptent à cela, qu'ils comprennent cela. Sinon, ça pose problème. Donc c'est un métier qui est très dynamique. Et enfin, quels sont les éléments pour devenir journaliste? Pour devenir journaliste, d'abord, il faut être formé. Ça, c'est très important. N'est pas journaliste qui le veut. Pour être journaliste, il faut passer par un centre de formation, par une école de journalisme d'abord. Ça, c'est très important. On ne peut pas déroger à cela. Parce que c'est là que vous allez apprendre les métiers, les ficelles du métier, c'est-à-dire tout ce qui est enseignement professionnel. Si vous faites de la radio, ou de la presse écrite, ou de la télé, ou de la presse en ligne, vous allez apprendre les ficelles de cela, les rudiments. Vous allez avoir aussi les enseignements généraux, où il y a toute la culture générale, la sociologie et tous les éléments qu'il faut par rapport à ça. Et après, maintenant, vous avez le fondement de notre métier, c'est les cours sur l'éthique et la déontologie. Les deux colonnes, les droits et les devoirs. Quels sont vos droits en tant que journaliste? Quels sont vos devoirs? Ce qui n'est pas faisable, ce qui est possible. Voilà les éléments qu'il faut pour un journaliste. Et quand on a fini avec ça, on s'engage comme dans un serment. Vous voyez, c'est comme un sacerdoce, ce métier-là. On rentre pas dedans pour devenir riche. On rentre dedans parce qu'on a cette volonté de faire des missions de service public. Comme notre animateur en ce moment, il en a produit. Il va produire peut-être 1000 émissions. Il est fier d'avoir informé les gens. C'est ça le problème du journalisme. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais comme je l'ai dit aussi, le grand problème, comme le premier auditeur le disait, le premier auditeur le disait, Platini, c'est la question aussi de la décence. La décence donc des salaires, parce que si les propriétaires des médias pouvaient signer une convention collective avec un minimum mensuel de salaire auquel salaire ils sont obligés de faire honneur, les journalistes peuvent vraiment se dire bon, on peut travailler. Mais également la question qu'il a posée, c'est la question de la liberté ou de l'indépendance éditoriale.
Voilà, évidemment, le bon nombre des médias ici en RDC, des radios, des télévisions, appartiennent à des privés, exactement, à des hommes politiques. Et ils vous imposent une ligne éditoriale, voilà, vous faites ceci, vous faites cela, et ils piétinent, ils marchent sur les règles du métier.
Tout à fait. Alors, ce phénomène-là, bon, nous on l'a appelé le captage des médias. Le captage des médias est un nouveau concept, qui en fait consiste à voir des gens qui vont créer des médias, parce que c'est des politiciens ou des magnats de la chose économique, qui vont racheter des médias et qui vont utiliser ça pour aller vraiment, comme vous dites, contre les bases déontologiques du métier de journaliste. Ça pose un grand, grand problème. Et là, il faudrait vraiment faire un effort. Il faut un peu nettoyer le système de la presse. C'est-à-dire qu'on doit avoir des lois qui ne permettent pas, par exemple, le cumul des médias qui ne permettent peut-être pas aussi à des gens qui disent que eux ils sont des journalistes alors qu'en fait c'est des politiciens à avoir accès aux médias. Et c'est un grand problème, hein. C'est pas seulement en RDC, c'est partout. Les gens ont compris, les politiciens ont compris que sous couvert de radios dites communautaires ou quelques radios associatives, ils font passer la... Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, et il faudrait que les régulateurs donc des médias puissent vraiment prendre ça à bras le corps, et que les ministères, c'est-à-dire la communication aussi, puissent vraiment se pencher sur la question parce que ça pose problème. Et ça pollue complètement le travail des journalistes. Psychologiquement, ils sont pas en forme. Et deuxièmement, il y a vraiment cette perversion du métier qui fait que, bon, on a quitté la voie de commerce en 91 à Windhoek pour le pluralisme, mais c'est un pluralisme qui est biaisé parce qu'en fait, il n'est pas professionnel, il n'est pas indépendant, et ça pose problème, voilà.
Voilà, nous espérons aussi à accueillir tout à l'heure le ministre de la Communication et Média, Jolino Makelele, qui va certainement répondre à ces préoccupations-là. Vous avez suivi la question de l'héritier des Bounia, comment prévenir les assassinats des journalistes, ces tortures, meurtres, etc.
Ok.
Et arrestations arbitraires, tout cela.
Oui. Non, nous sommes, au niveau de l'UNESCO, nous travaillons là-dessus depuis bientôt une dizaine d'années, hein, c'est-à-dire que nous avons créé un plan d'action des Nations Unies pour la sécurité des journalistes et la lutte contre l'impunité. Ce plan d'action, en fait, les Nations Unies nous ont délégué, je voulais le lead pour mettre ça en œuvre. Et il y a une disposition dedans qui est très importante. Cette disposition dit qu'il faut créer au niveau de chaque pays un mécanisme national de protection des journalistes. C'est dans ce cadre-là que l'année dernière, nous avons eu un atelier avec la société civile, beaucoup d'autres personnes pour créer l'Observatoire national pour la protection des journalistes en RDC. Cet observatoire a pour rôle vraiment de lancer l'alerte dès qu'il y a une agression. Alors, on avait souhaité que participent à cet atelier les confessions religieuses. Nous avons invité le clergé catholique, les églises du réveil, la communauté musulmane. Nous avons invité les artistes. Nous avons invité également la société civile, tous ceux qui sont au niveau des droits de l'homme, représentants des Nations Unies. En fait, on a, avec GED, les journalistes en danger, et GNPC, nous avons pu faire cet atelier, mais l'atelier n'a pas encore, les résultats de l'atelier n'ont pas encore reçu une légitimation au niveau national. Et nous allons continuer cette lutte pour que cet observatoire existe et marche, à l'instar des autres qui sont peut-être IFEX, Reporters sans frontières. Si nous avons à l'intérieur du pays un observatoire de ce genre, je suis sûr que ça va beaucoup diminuer les velléités de ces criminels et autres agresseurs des médias, parce que dès qu'ils touchent à un journaliste, même si c'est symboliquement, l'alerte est donnée, les artistes, les musiciens sont informés et on va faire en sorte qu'on fasse du bruit autour de ça. Et c'est important que ce plan d'action national puisse être appliqué avec cette disposition quant à la création de l'Observatoire national pour la protection des journalistes. Et j'étais à Oslo, et je vais terminer avec ça, au moins il y a 2 ans, pour la journée du 2 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre l'impunité. Et j'étais vraiment surpris par, mais très agréablement surpris par la ministre des Affaires étrangères de ce pays, qui disait à son discours, « Vous les journalistes, faites votre travail. Nous sommes là pour vous protéger. » Vous voyez, et ce n'est pas quand même par hasard que ce pays est premier au niveau mondial pour la liberté de la presse. Si tous les ministres des Affaires étrangères des 193 pays membres des Nations Unies disaient ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait même pas ces agressions ni ces problèmes-là. Mais bon, chaque pays, la Norvège, ils ont leur truc. Hein. Bon, et ça m'a vraiment ému d'entendre ça. Il y a une ministre qui dit, faites votre travail, n'hésitez pas. Nous, on est là pour vous protéger.
Pour vous protéger.
Si on pouvait avoir ça partout, on serait bien aujourd'hui.
Bien, nous allons faire un tour à Lubumbashi dans la province du Katanga pour dans le Haut-Katanga pour parler de la pandémie de COVID-19 qui vole la vedette à toutes les informations. Presque tous les médias là-bas, à Lubumbashi, ne parlent que de cela. Les traitements de cette information requièrent une certaine rigueur pour ne pas tomber dans le sensationnel, de peur de stresser la population. Notre confrère Jean Gandou nous propose ce reportage. Au Capé.
Depuis l'avènement de cette pandémie, cette question est sur toutes les lèvres. Les médias en font écho à travers les journaux parlés ou télévisés, les émissions spécialisées, les pages magazines et autres. Et plusieurs informations sont données à la population sous différentes facettes avec comme objectif informer. Mais d'où viennent les informations que le média livre à la population sur cette pandémie ? Quelques journalistes de Lubumbashi répondent.
Personnellement, je me suis toujours référé à différentes maisons de presse, notamment l'agence congolaise de presse pour connaître la situation du COVID-19 dans notre pays. Alors tous les soirs, je prends quand même le temps de me ressourcer pour connaître l'évolution de cette pandémie. En dehors de la RDC, il y a notamment aussi les chaînes internationales où je dois savoir comment est-ce que la pandémie est en train d'évoluer dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et là, je prends quand même le plaisir de suivre des chaînes internationales, notamment France 24, Africa News et que sais-je.
Bon, aujourd'hui, on a de nouvelles technologies, notamment la télé, on a aussi la radio. J'arrive à faire le monitoring comme on l'a toujours appris. Mais surtout, moi personnellement, j'attends la publication des résultats de l'IRNB, surtout relayé par le docteur Muyembe. Ouais, à partir de ces bulletins-là, je m'imprègne de l'évolution actuelle du COVID-19 en République démocratique du Congo. Mais mis à part cela, la rédaction du Malaya a des contacts, bien sûr, de autorités provinciales, surtout de la santé. Je peux citer le docteur Joseph Sambi Boulanda. On a l'habitude de nous imprégner aussi de l'actualité si elle a vraiment évolué, surtout à Lubumbashi avec des cas qui ont été confirmés.
Est-ce que ces informations sont traitées avec toute la rigueur qui s'impose? Marianne Yav, présidente provinciale de l'UNPC Katanga.
J'estime que c'est donné avec toute la rigueur du monde parce que c'est une information comme toute autre information, à la seule différence que nous traitons le COVID-19. Je me dis, les questions de référence doivent encore une fois revenir en ce qui concerne le traitement de l'information sur le COVID-19. Il faut cette rigueur de savoir qui, quoi, quand les questions de référence doivent intervenir. Et si nous répondons à ces questions de référence, je me dis que c'est traité avec rigueur. Mais, il y a mais, parce que tout part des sources d'informations que nous avons. Nos sources nous posent problème aujourd'hui en ce qui concerne le COVID-19. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Et j'ai fait le constat à travers notre pays, à travers l'Afrique et même à travers le monde, c'est de débats et de débats sur cette actualité, le COVID-19. Les sources d'informations posent problème. Chacun est en train d'analyser une information par rapport à sa source. Donc voilà pourquoi j'ai dit la rigueur, nous l'avons. Mais cette rigueur, elle devient un peu douteuse parce que les sources d'informations sont un peu biaisées. Nous déplorons une chose, et surtout dans la province du Haut-Katanga, il y a un problème en ce qui concerne la communication auprès de la cellule de riposte à Kinshasa, qui est dirigée par Dr Muyembe, mais également le ministère provincial de la santé en province. Nous sentons de plus en plus qu'il y a une discordance. Lorsqu'on nous informe qu'il y a un cas dans la province du Haut-Katanga atteint du Covid, on donne l'information en province, mais tout de suite après, c'est Kinshasa qui nous dit que ce cas-là n'est pas encore confirmé. Ça nous donne l'impression que la communication, même au niveau de ceux qui doivent nous donner les bonnes informations en ce qui concerne la pandémie COVID-19, ne se mettent pas d'accord. Donc, je dis qu'il y a vraiment un problème d'ordre communicationnel. Et dans ce cas-là, on est un peu limité. Ça signifie que nos informations ne sont pas tout de suite de bonnes informations parce que déjà les sources sont biaisées.
Que faire alors pour que les médias traitent avec rigueur cette question de coronavirus? Maurice Kitoko, chef des travaux au département des sciences de l'information et de la communication à la faculté des lettres de l'université de Lubumbashi.
D'abord, c'est un sujet sensible lié à la santé. Pour arriver à traiter ce problème-là, du point de vue journalistique, le journaliste doit être outillé avec tous les éléments journalistiques, l'écriture journalistique, savoir comment on produit un papier. Deuxièmement, il ne doit pas oublier l'outil de base qui est l'éthique et la déontologie parce que comme c'est un sujet lié à la santé, il y a beaucoup de sensibilités sur cette dignité là-dedans. Vous risquez d'envoyer à la population des informations pas très bien traitées et qui arrivent à soulever la population ou à créer des situations pas très bonnes dans la société. De trois, est-ce que les journalistes nous sont suffisamment informés? Est-ce que les hommes de la santé, est-ce qu'ils ont pris le temps d'organiser, ne fût-ce qu'une conférence, ne fût-ce qu'une petite formation auprès des journalistes là? Parce que, en général, tous ceux qui se jettent dans ce domaine-là n'ont pas de formation en la matière. Ils prennent les informations qu'ils ont ramassées sur les réseaux sociaux et ce sont ces informations-là qu'ils donnent aux gens.
Que dire donc de ceux qui ont comme source d'information les réseaux sociaux? Maurice Kitoko.
On considère ces médias sociaux-là comme étant des sources de rumeurs. J'appelle ça rumeurs entre guillemets, même si des fois il y a de bonnes informations. Dès qu'ils ont une information comme ça sur les réseaux sociaux, c'est recourir maintenant aux personnes ressources les mieux outillées pour arriver à éclairer leur lanterne, à arriver à leur expliquer concrètement ce qu'il y a par rapport à ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, vous savez que n'importe qui peut poster n'importe quoi. Dès que j'ai une information, directement je commence à la partager sans la vérifier. Et si le journaliste doit se fier aux réseaux sociaux, il risque aussi de commencer à relayer les rumeurs.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Okapi.
Comment exercer le, merci Jean Gandou pour ce reportage. Comment exercer le métier de journaliste avec sans crainte ni complaisance? On en parle aujourd'hui, fidèles auditeurs. Monsieur Jean-Pierre Ilboudeau, représentant de l'UNESCO en RDC, vous venez de suivre ce reportage. Quelle est votre réaction?
Bien. Vous m'entendez?
Oui, allez-y.
Allez, ma réaction est que c'est la vérité qu'ils ont dit, hein. Que ce soit la collègue qui a parlé ou encore notre ami de la faculté. Je crois que la question des sources, c'est ça la base en fait du journalisme, hein. Des sources bien informées, des sources dignes de foi, des sources crédibles. Il faut aller toujours vers ces sources. Et comme il a si bien dit également, je pense que bon, la question de la cellule de la riposte, elle disait qu'il peut faire des contradictions. Je pense que c'est peut-être aussi lié au fait que on n'a pas de laboratoire sur place dans le Kivu, hein, ou à Katanga, et souvent il faut envoyer tout
à Kinshasa.
Il y a un décalage qui fait que c'est pas des contradictions, c'est le décalage là qui fait qu'il y a cette impression de malaise, parce que bon, on veut les trucs rapidement, on les a pas. Après, bon, je pense qu'il faudrait peut-être, comme l'a dit le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, il a souhaité qu'en tout cas au niveau du Kivu, il y ait un laboratoire de référence pour des tests. Et je pense que ce sera bon pour l'ensemble du pays si c'est possible. Maintenant, n'importe qui peut partager n'importe quoi, comme l'a dit le collègue professeur. C'est vrai, c'est ça les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment se méfier comme de la paix. Les journalistes professionnels doivent faire beaucoup attention. Quand tu as une information sur les réseaux sociaux, il faut vérifier 1000 fois. Il faut faire la triangulation avant de balancé. C'est vrai qu'avec l'Internet, on a cette, j'allais dire, cette illusion de la transparence, d'une instantanéité qui fait que rapidement on a quelque chose, ah, on va le partager à quelqu'un d'autre. Mmh. Après, on se rend compte que c'est pas vrai. Moi, j'ai reçu par exemple une information d'une source très haute en disant que Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, a approuvé le médicament, des malgaches là, plus qu'un autre médicament. Alors que c'était faux. 3 jours après, l'OMS a fait un démenti. Mais la manière dont c'était écrit, si vous ne faites pas attention, vous allez envoyer ça aux gens en disant ah, voilà, même l'OMS a approuvé ça. Donc, il y a ça. Il y a des spécialistes de fake news. D'ailleurs, ils se lèvent le matin. Ce que Dieu fait, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va.
Et ils fabriquent des informations.
Exactement. Pour vraiment, j'allais dire, polluer la toile. Et ainsi, vraiment polluer aussi les gens. Et il faut faire beaucoup attention. Quand les journalistes ne font pas attention à ça, la question du journalisme, c'est la vérification des sources. Ça, c'est fondamental.
Bien. Monsieur Jean-Pierre Ilboudeau, représentant de l'UNESCO en RDC, merci. On va vous retrouver peut-être tout à l'heure au cours de cette émission au Capi Service. Merci. On va accueillir à présent Monsieur Joseph Boukard Chilundé. Il est le président de l'Union nationale de la presse du Congo. Monsieur Joseph Boukard Chilundé, bonjour.
Bonjour.
Alors, le Monde a célébré hier la journée de la liberté de la presse sous le thème « Journalisme sans crainte ni complaisance ». Alors, que vous inspire ce thème?
Avant tout, je voudrais que vous corrigiez mon identité. Je m'appelle Kasonga Chilundé. vous avez oublié le nom principal, Kasonga.
D'accord. Kasonga Chilonde.
Oui, oui. Ce qui m'inspire le thème d'hier, c'est que le journaliste doit faire son travail correctement en tenant compte des béaba du journalisme qu'il a appris à l'école. Et en plus, en tenant surtout compte du code de déontologie qui est sa Bible. Et dans le code, on donne tous les angles de la manière dont le journaliste doit traiter l'information. Donc, il ne doit pas craindre, il ne doit pas être complaisant. Et cela ne peut être possible que si il dévie, il ne veut pas appliquer le code de déontologie. Il se laisse entraîner par la corruption, par la complaisance du fait de quelques aspects tribalistes, par exemple. Donc, c'est ça qui fait que le journaliste se détourne de son rôle principal et il puisse se complaire et puis et avoir peur des informations qu'il doit livrer à la population.
Aujourd'hui, M. Joseph Kasonga, on parle du journalisme d'investigation. Bon nombre des journalistes congolais ont peur de se lancer dans ce genre journalistique. Il y a eu plusieurs initiatives, mais apparemment, ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que c'est avec raison que les journalistes congolais évitent le journalisme d'investigation. Pour la simple et unique raison que quand vous prenez notre code pénal, on vous dit que le journaliste a donné l'information, qu'elle soit vraie ou fausse. Dès lors que la personne citée dans cette information estime que, malgré que l'information est vraie, mais elle a porté atteinte à son honneur, à sa dignité, le journaliste est condamné pour diffamation, sans autre forme de procès. Et c'est déjà un problème, parce que, je l'ai dit une fois que j'ai organisé un atelier avec les amis de la justice, les magistrats, procureurs et juges, je leur ai fait comprendre que le rôle du journaliste n'est pas à confondre avec celui d'une femme jacasse qui se met aux côtés de la rue en train de colporter les bruits et d'insulter les autres. Un journaliste, par essence et par définition, c'est quelqu'un qui collecte l'information, qui la traite et puis la diffuse. Il la traite avec responsabilité et puis la diffuse au public. Donc un journaliste, ce qu'il fait, ce n'est pas le colportage. C'est le métier qu'il exerce, reconnu par la loi, que ce soit la loi nationale ou toutes les lois mondiales. Donc, on ne peut pas confondre le journaliste de cette manière-là.
Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de l'UNPC, vous avez eu à initier plusieurs des formations, par exemple, des rencontres des journalistes par rapport à ces genres, le journalisme d'investigation?
Nous avons déjà initié nous avons encouragé ce type de journalisme. Et il y a même une association des journalistes d'investigation, mais malheureusement, qui a trouvé des problèmes, comme je le dis là-bas, parce que c'était principalement développé au Katanga, mais la plupart étaient interpellés, arrêtés, et presque tout le monde a pris du recul pour se complaire dans le journalisme ordinaire et protocolaire. Mmh. C'est ça le vrai problème. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il faut que, au niveau, je ne sais pas, du Conseil supérieur de la magistrature, ou je ne sais pas, au niveau du ministère de la Justice, qu'on revoie quand même certaines dispositions du Code pénal, qu'on les adapte à la démocratie que nous voulons.
La dépénalisation du délit de presse.
Il y a ça, dépénalisation du délit de presse. Mais il y a surtout le fond, c'est-à-dire la modification de cet article-là, qui veut que tout ce que le journaliste écrit, un individu peut venir dire non, ça nuit à mon honneur, à ma dignité, même s'il a volé des millions, et puis le journaliste sera condamné parce qu'il aura une famille. C'est pour cela que j'ai dit non, ça ne doit pas être comme ça. Il faut modifier cette disposition concernant le concept diffamation, imputation dommageable.
Voilà, oui, nous poursuivons cette émission. On va accueillir un journaliste d'investigation, Franck Fouamba. Bonjour.
Bonjour, confrère.
Voilà.
Bonjour, auditeur Radio Capi.
Voilà, vous êtes à Bounia pour l'instant. Alors, avec vous, nous allons parler du journalisme et d'investigation, surtout dans les secteurs des mines. Vous avez travaillé dans ces domaines-là. Pourquoi ça ne marche toujours pas?
Bon, je pense que le président Kassongo venait de donner certaines raisons. Ça ne marche pas parce que, comme il venait de le dire, la loi sur la presse en RDC ne protège pas le journaliste et ne promeut pas le métier de journaliste. De deux, le gouvernement n'est pas prêt à accompagner une presse qui l'aide à bien gérer la société. Le gouvernement, nos dirigeants, ils aiment les journalistes qui sont là pour les chanter, les journalistes, les gens qui crient jour et nuit, et non pas les gens qui aident la société, qui contribuent au développement de la société et qui jouent le vrai rôle de quatrième pouvoir. Il y a aussi un problème financier. Vous allez voir que beaucoup d'argent aujourd'hui est investi dans les ONG, mais pas dans la presse. Or, à travers le monde, quand nous allons dans des pays voisins, les pays de la sous-région, nous allons à travers le monde, dans les pays des vieilles démocraties, ce sont plutôt les enquêtes, les investigations des journalistes qui ont transformé, qui ont aidé à changer des choses, qui ont révélé les grands dossiers, les grandes malversations, et non les rapports des ONG. Je suis moi-même de la société civile et j'ai des ONG. Mais vous allez voir, par exemple, le mot d'où c'est opéré. Un journaliste d'investigation, c'est quelqu'un qui va faire des recherches, faire des enquêtes pour comprendre ce qui se passe, comment ça se passe, qui le fait, et faire ressortir, publier les conclusions sans prendre parti. Alors qu'une enquête d'ONG, c'est une enquête orientée depuis le départ, parce que les termes de référence, il y a déjà une conclusion à laquelle vous devez aboutir pour justifier, que vous devez expliquer. Mmh. Les bailleurs de fonds ne mettent pas l'argent dans la presse en RDC.
Franck Fouamba, vous êtes actuellement à Bounia, mais vous êtes basé à Kolwezi. Alors, dans les domaines des mines, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi vous n'arrivez pas? Il y a beaucoup de corruption, beaucoup de problèmes aussi dans ces domaines-là. Pourquoi vous n'arrivez pas à mener des enquêtes et à donner des bonnes informations à ces sujets?
Parlons généralement du journalisme. Nous parvenons à faire ce que nous faisons. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Nous parvenons à faire ce que nous faisons. Nous sommes basés à Lubumbashi, on est à Kolwezi. Nous parvenons à faire ce que nous faisons parce qu'à un moment, nous avons un peu de moyens que nous mettons dans les investigations. Mmh. Le journaliste d'investigation demande les moyens. Il faut payer les gens qui vont, de façon qu'ils ne soient pas manipulés, ne soient pas corrompus. Il faut payer les gens qui vont parce qu'ils doivent payer l'hôtel, ils doivent être patients. L'investigation, on ne la fait pas en un jour. Il faut payer l'Internet, il faut payer la communication, il faut payer les déplacements, les gens doivent manger. Et vous devez avoir les journalistes qui sont très bien payés déjà chez vous. Or, déjà, nos maisons de presse, la plupart ne sont pas viables. Ils ne sont pas viables parce que les partenaires, les miniers eux-mêmes, qui sont des partenaires financiers. Quand nous avions la GECAMINE, quand elle était la GECAMINE d'avant, c'est elle qui faisait vivre la presse. Et la GECAMINE d'aujourd'hui, elle est l'unique entreprise où vous allez vous trouver des journaux, où vous trouvez qu'il y a d'abonnements de plusieurs journaux, de plusieurs maisons de presse. Le secteur minier ne coopère pas avec la presse. Ils disent que les journalistes, les truandes, ils vont pour commander. Ce sont des erreurs qui se sont arrivées dans le passé. Avec le nouveau président de la Chambre de Mines, le président Lou Atum, nous avons pris l'angle en Afrique du Sud, l'eau de mining là-bas. Nous avons dit non. Créons un cadre, créons les conditions dans lesquelles nous devons collaborer. Quand le journaliste vient, il ne vient pas commander, il ne vient pas truander, il ne vient pas demander. Parce que si vous me fermez la porte, je vais publier l'information que j'ai. Et comme le président Kassongo a évoqué, la justice chez nous à un moment, c'est celui qui est plus fort, qui fait condamner quelqu'un. Il y a des journalistes qui sont allés en justice parce que les miniers n'ont pas voulu leur donner l'information. Les miniers n'ont pas voulu ouvrir les portes et quand ils ont publié l'information qu'ils avaient, qui n'était pas fausse.
Et Franck Fouamba, on a appris que les miniers ne communiquent pas souvent. Il y a aussi un problème de langue. Ils s'expriment en anglais et bon nombre de journalistes.
Ce sont des farceurs. À un moment, les miniers, ce sont des farceurs. À un moment, tout ça, c'est l'erreur du gouvernement. Nous, ici, chez nous, la langue officielle, c'est le français. Et nous avons quatre langues nationales.
Mais les, non seulement ne, la plupart ne communiquent pas en français, ils communiquent en anglais. Et même les comptabilités sont tenues en anglais ou en anglais ou en chinois. La difficulté là n'est pas seulement pour la presse. Demandez à tous les gens de la DGI, de la DGRAD ou de la DGDA qui vont pour faire des contrôles. Mais ils ont plutôt des difficultés. Vous êtes devant des gens qui ne parlent pas la langue que vous vous méprisez. Beaucoup de journalistes n'ont pas investi, ne connaissent pas l'anglais. Nous avons cette chance-là d'être polyglottes, mais beaucoup ne connaissent pas. C'est aussi une barrière. Et il y a certains, ils arrivent, quand vous arrivez, je dois vous dire une vérité. Les miniers chez nous, la plupart, parce qu'ils sont cotés en bourse, ils préfèrent travailler avec la presse étrangère, qu'ils paient d'ailleurs trop cher. Et les petits journalistes étrangers à qui on paye 80 000 euros, 5 000 euros pour un travail mal fait, juste parce que ça va aller laver en bourse, alors qu'un journaliste congolais qui veut faire du travail professionnel, quand il arrive sans demander de l'argent, on ne l'accueille pas. Et si on vient pour insérer une page chez lui, on lui dit, écoute, on a en plus ces 100 dollars. Les miniers travaillent à affaiblir la presse. On doit le dire et le gouvernement doit s'élever. Il doit s'élever pour aider la presse. On ne peut pas condamner la presse alors que tout le monde travaille pour ne pas passer la presse. Une autre raison, vous arrivez dans une société minière. Je prends le cas à l'époque, je ne sais pas maintenant s'ils ont amélioré. Vous allez chez KCC ou chez Mouni. C'est le groupe Glencore. Quand vous avez une information, on doit demander l'autorisation de la Suisse. Quand vous allez pour qu'on vous reçoive, vous journalistes, on doit appeler la Suisse. C'est anormal. KCC et Mouni sont des sociétés de droit congolais. Un journaliste congolais qui va aller là-bas, on doit appeler la Suisse. La Suisse doit donner l'autorisation. Quand vous allez chez TFM, soit on, sur place là, on doit appeler Kinshasa, ou on doit appeler, à l'époque, on devait appeler Phoenix aux États-Unis. Je ne sais pas maintenant s'il faut appeler la Chine. Ce sont des choses qui font que ce sont des blocages qui sont là. Et quand les journalistes expatriés arrivent, ils viennent déjà avec les autorisations des États-Unis, de la Suisse, puis ils ont porte ouverte. À ce moment-là, on donne l'impression que les journalistes congolais sont mauvais. Non, les journalistes congolais ne sont pas mauvais. Seulement, ils ne sont pas soumis aux mêmes conditions, aux mêmes traitements par rapport à l'accès à l'information.
Merci, Franck Fomba, journaliste d'investigation. Nous allons donner la parole à Maître Edmond Bokolo, il est en Bandaka. Maître, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons aujourd'hui de comment exercer le métier des journalistes sans crainte ni complaisance. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ces sujets?
Oui, merci beaucoup pour la parole. J'ai suivi les différents intervenants sur la thématique du jour. Ici, je voudrais souligner que la profession des journalismes donc peut être exercée sans crainte si seulement si les règles qui organisent cette profession sont respectées. Par exemple, chez moi ici en Bandaka, en ce qui concerne le recrutement, il y a des règles. Il y a une loi de 1981 qui régit donc le statut de journaliste. Mais vous allez voir que la plupart des personnes qui exercent ce métier de journalisme, la plupart ont des notions élémentaires, bien sûr, sur la déontologie. Parce que vous allez voir que nous avons une loi de 1996. Nous avons également les codes déontologiques de 2004 qui organisent la profession. Mais la plupart des personnes qui sont recrutées, d'abord, la plupart d'eux ne proviennent pas des institutions universitaires des communications, et ça pose un problème. Et puis un autre problème, c'est question de la politisation des médias. La plupart des médias que nous avons au Congo, en général et plus particulièrement chez nous ici en Bandaka, ce sont des médias des hommes politiques. Et ceux qui exercent cette profession au sein de ces médias sont que du côté des politiciens. Donc ce qui ne leur permettent pas de pouvoir exercer la profession. Et puis, il y a un problème aussi, le gouvernement doit prendre des mesures pour dépénaliser les délits des presses. Parce que lorsque j'ai suivi l'autre intervenant qui parlait sur les imputations, ceux qui poursuivent les journalistes, les magistrats surtout, ils doivent maîtriser la loi de 96. Parce que avant d'arrêter un journaliste qui a communiqué, qui a informé, il faut d'abord lire la loi pour savoir que le journaliste est soumis au devoir, ce que nous appelons le droit de réponse, et aussi ce qu'on appelle le droit de rectification.
Oui.
Si ces devoirs ne sont pas accomplis, là, le journaliste, s'il a communiqué des fausses informations, il peut être poursuivi. Voilà. Donc, pour que le métier soit exercé, d'abord, les journalistes doivent maîtriser leur déontologie. Et puis ceux qui recrutent, ils doivent recruter ceux qui connaissent quand même la déontologie et ceux qui ont appris quand même un peu de notions
du droit
de la presse. Et puis le gouvernement doit faire le nécessaire afin de dépénaliser les délits des presse. Parce que c'est une entorse, c'est une entrave à l'exercice de ce beau métier qui est le journalisme.
Merci Maître Edmond Mbokolo de Mbandaka. Monsieur Joseph Kassonga Chilunde, vous êtes en ligne. Votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit?
Non, je crois que ce qui vient d'être dit, j'apprécie sa juste valeur. L'intervention de mon confrère Franck Fouamba.
Oui.
Et je le salue, je souhaite une bonne fête à Bounia où il est. Tout ce qu'il dit est vrai. Parce qu'au-delà de, comme l'a dit Maître de Mbandaka, il faut dépénaliser les délits de presse. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, le président de la République demande à la presse de l'accompagner dans sa lutte contre la corruption. Est-ce qu'il y ait cette disposition-là qui, aujourd'hui, si un journaliste a un dossier sur un manager, par exemple, qui a détourné les fonds, s'il le publie, que s'il là se présente devant le juge pour dire que non, c'est vrai ce qu'il a écrit, mais il a nuit à mon honneur et à ma crédibilité. Ça pose un problème.
Et le président l'a même bien dit, il veut que la presse joue son rôle de quatrième pouvoir.
Ah, mais il l'a dit, mais il faut qu'il le fasse. Ça fait une année qu'il l'a dit. Nous sommes aujourd'hui une année après, mais on ne sent rien du tout de son côté. C'est ça le vrai problème. Il faut être un homme d'acte. Il a dit que c'est l'année de l'action. Il a dit que ça fait une année. Nous attendons.
Voilà, donc le vrai problème, c'est d'abord le cadre juridique qui doit être modifié.
Le cadre juridique doit être modifié, mais en attendant, le cadre juridique doit être modifié. Il peut prendre des dispositions transitoires en décrétant, par exemple, le moratoire sur l'arrestation des journalistes. À partir de ce moment-là, il est plus facile à un journaliste de faire son travail, sûr qu'il ne pourra pas être inquiété. Quitte à ce que si il commet des fautes déontologiques, là c'est la profession qui va s'occuper de lui.
Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette préoccupation de Maître Edmond? Le métier du journaliste aujourd'hui est envahi par ce qu'on appelle par d'autres personnes entre guillemets les moutons noirs, des personnes qui n'ont aucune notion, qui aiment les sensations, les informations sensationnelles, qui ont envahi le secteur.
Non, ça veut dire que le vrai problème dans ce que a dit Maître, que je retiens, c'est le fait que la plupart des médias sont détenus par les hommes politiques. Je prends la situation de Mbandaka où les hommes politiques s'affrontent à travers les médias. Ils instrumentalisent les journalistes et quand un journaliste ne veut pas faire une telle déclaration, il est chassé comme un chien.
Alors, Joseph Kassonga, on va marquer une pause, on va continuer tout à l'heure après les informations. Comment exercer le métier de journaliste sans crainte ni complaisance? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service New Look. Pour participer, appelez, composez le 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiookapi.net, 081-890-63-94, écrivez également à service@radiookapi.net.
Je dis à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, à nos staffs, à ceux qui nous sont chers, à tout le monde, il ne faut pas paniquer, mais il faut absolument écouter ce qu'on vous demande et protégez-vous, protégez les autres, ne prenez pas de risques. Et si vous avez des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas à demander à ceux qui peuvent vous aider. Je dis aussi que la quarantaine n'est pas une menace. La quarantaine est une mesure de prévention. Ça permet d'identifier les contacts. Et donc, il ne faut pas avoir peur de dire « j'ai contacté quelqu'un ». Parce que parfois, les gens, ils ont peur d'être stigmatisés. Ils ont peur qu'on les identifie comme malades. La quarantaine nous permet d'éviter la propagation. Si les gens sortent de la quarantaine, ça veut dire qu'ils n'ont pas la maladie. S'ils avaient la maladie, ils ne sortent pas. Ils sont mis dans un endroit où ils sont isolés. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas cacher qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a été identifié comme malade. Au contraire, il faut le faire. Il faut faire attention parce que c'est ça le message. Le message, on va gagner. Regardez les pays de l'Asie. C'est le premier qui ont été affectés. Qu'est-ce qui leur a permis de maîtriser la maladie? On le voit dans toute l'Asie, c'est quelques cas qui restent parce qu'ils ont respecté les instructions qui ont été données par leur pays. Donc je vous demande, c'est le message que j'envoie, nous sommes ensemble, c'est une maladie qui va affecter tout le monde si on ne fait pas attention et si on ne prend pas les précautions pour réduire la propagation du virus.
Ceci est un message de Mme Leïla Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service New Look. Aujourd'hui, nous parlons du métier de journaliste, comment l'exercer sans crainte ni complaisance. Nous avons en ligne Monsieur Joseph Bukarkasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo. Tout à l'heure, vous étiez en train de répondre à la question de Maître Edmond qui a parlé de la politisation des médias, surtout là-bas à Mbandaka. Il a parlé aussi aujourd'hui, nous, on a des journalistes sans formation qui ne connaissent même pas les règles d'éthique et de la déontologie et qui écrivent ou qui disent n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Je dis que le maître a raison, tout simplement parce que d'abord, le contexte dans lequel la démocratisation est venue dans ce pays le 24 avril c'était l'année 1990 était difficile. Vous savez que dans le pays, il n'y a pas suffisamment d'écoles de formation des journalistes. Et la plupart, quand il y a eu cette éclosion, on a pris généralement les professeurs de français ou d'histoire dans les humanités qui ont commencé maintenant à faire le métier de journaliste sans en avoir les aptitudes. Les médias se sont intensifiés. Quelqu'un qui dit aujourd'hui a une parcelle de pouvoir, il estime que la meilleure manière de faire ma promotion, c'est d'avoir ma radio, c'est d'avoir ma télévision. Et dès lors qu'il a ça, et un autre qui vient, si c'est son anniversaire, il crée aussi sa radio et sa télévision. Et quand nous approchons des élections, l'affrontement entre les deux se fait à travers les médias. Et on utilise, et quand on prenait les gens qui sont dans ces médias-là, vous allez trouver qu'il a pris son oncle, son neveu, son petit frère, sa nièce. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas faire un travail professionnel uniquement. La loi a libéralisé le secteur, avec raison. Mais la loi a dit que tout le monde peut créer un média. Mais il faut, s'il n'est pas professionnel de média lui-même, qu'il mette à la tête de ce média un professionnel de média, comme directeur de relations, directeur de publication, ainsi de suite. Mais même alors, ce sont les promoteurs de médias qui donnent des ordres.
Oui.
Et si vous n'acceptez pas, on vous chasse.
Et pourquoi l'UNPC n'intervient pas dans ces conditions-là, dans ces cas-là?
Dans la plupart des cas, l'UNPC est intervenu, même si ce n'est pas dans son rôle. L'UNPC est beaucoup intervenu dans ce cas-là. Mais je me dis que ce qui est aussi ce que l'UNPC pense, c'est la formation. La formation pose aussi un problème parce que l'UNPC n'a pas de moyens pour... nous avons fait les quelques provinces que nous avons visitées. Nous avons senti que ceux qui sont dans cette profession souffrent de manque de professionnalisme. Et la plupart vous disent, même quand vous posez la question à quelqu'un, clause de conscience. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça représente? Et donc, il faut une formation d'une manière générale, mais parce que nous n'avons pas de moyens, nous ne pouvons pas faire cette formation d'une manière régulière et permanente.
D'accord, on va accueillir les auditeurs. Ilunga nous appelle de Gemena, Caleb est en Mbandaka. Ilunga, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à la grande famille de la radio Okapi.
On vous écoute Ilunga.
Ok, je m'aurais dit une chose. Chez nous, ici, à Guémena, il y a une année que je suis là. Ce que j'ai remarqué ici, la plupart de nos radios ici sont des radios des hommes politiques. Alors, du moment où nous sommes, il n'y a pas vraiment de polémique parce que il n'y a pas la campagne, les gens sont là un peu dans des climats qui sont un peu bons. Mais il suffit juste de voir comment nos autorités d'ici arrêtent les journalistes. Il y a là, je crois, 15 ou 10 jours passés comme ça, il y a un de vos confrères qui a été arrêté ici à Guémena. Mais on a essayé même de voir la suite, on n'a pas trouvé. C'est parce que même ceux qui créent des radios ici n'ont pas la notion là, d'avoir recruté des gens qui sont capables de pouvoir travailler dans des radios là. Et ils recrutent leurs petits frères, des frères et sœurs pour les mettre à côté. Vous imaginez qu'un frère du propriétaire de la radio ne pourra pas dire le mal de son frère à travers sa radio. Et de l'autre côté aussi, le même cas. Alors, il y a la rivalité qui s'oppose. Maintenant, vous croyez qu'ils vont travailler d'une manière normale? Non. Allez, tout ça, c'est l'État qui est à la charge. Parce qu'ils ne sanctionnent pas du tout d'une manière professionnelle. Nous voyons l'organe tel que, je ne sais pas si c'est l'APC ou comment, vous allez m'aider par là. Il n'y a pas une formation pour les journalistes ici. Il suffit juste de dormir le matin, avoir une belle expression. Vous vous mettez ici à la radio, vous êtes là, rédacteur en chef, en train de travailler dans des bavures. Et il n'y a pas de sanctions. Alors, quand on veut sanctionner, les propriétaires de la radio aussi vont appeler pour dire que non, tel, ah, c'est mon fils, c'est mon oncle, vraiment, vous devez le laisser, il doit travailler. Donc, il y a des bavures de partout. Donc la responsabilité est vraiment partagée. Oui. L'État est là, les créateurs des radios aussi sont là, ils ne tiennent pas compte de tout ça.
Merci Ilunga.
Il y a des problèmes ici chez nous.
D'accord.
Ici à Guémena. Vraiment, je tiens à vous remercier.
Merci. Caleb, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Bonjour et merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé la parole.
Quelle est votre préoccupation, Caleb?
Ah oui. Vraiment, je suis flatté quant à la thématique d'aujourd'hui. Il s'agit ici pour moi, la première fois, de prendre parole en direct de la radio de la paix. En effet, j'ai des préoccupations. La première est la suivante. Il est vrai que nous tous, nous sommes sans ignorer que l'article 24 de notre loi fondamentale, qui est la Constitution, garantit le droit à l'information pour toute personne. Alors, quel genre d'information qu'un journaliste peut-il publier ou diffuser? Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, parce qu'il est dit que toute information doit d'abord être traitée avant sa publication. Alors, comment un journaliste peut-il faire pour parvenir à publier une information aussi sensible qui contient même des secrets professionnels? Voilà mes deux préoccupations que je soumets.
Merci Caleb. Glody de Mandondouville, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour également à l'invité, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio 4.
Quelle est votre question, Glody?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée, messieurs les journalistes. Je pense bien que ces problèmes dérangent la République démocratique du Congo. Par exemple, ici, dans la ville de Bandundu, on assiste à un désordre vraiment total. On ne sait pas qui est censé appeler journaliste et qui est censé appeler animateur. Et quel type d'émission qu'un journaliste peut animer en caractère culturel, tout comme social, et quel type d'émission un journaliste peut animer. Si on peut avoir vraiment ces deux différences, et ça peut vraiment nous aider. Deuxième question. Pour être journaliste, quels sont les critères à remplir ou encore des conditions? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se lever le matin, il trouve un média privé, il s'est dit qu'il est journaliste. Peut-être qu'il n'a jamais été même au bas de l'université. Quels sont les critères pour appeler journaliste et quelles sont les conditions à remplir pour qu'on vous appelle journaliste? Si l'invité peut m'aider à ces petites questions.
Merci.
Je vous remercie.
Merci. Monsieur Kasonga Chulunde.
Merci, cher ami de Bandundu. Pour être journaliste, d'abord, la loi dit que il faut avoir fait un minimum de 6 ans de humanité, avoir un diplôme d'État. Et lorsque vous avez un diplôme d'État que vous voulez vous lancer dans le journalisme, on vous engage dans une rédaction et vous faites 2 ans de stage professionnel. Au cours de ces 2 ans, on vous apprend les bas du métier. Et après les 2 ans, lorsque le responsable de la rédaction constate que votre production est bonne et vous méritez de continuer. Il fait un rapport à l'UNPC et sollicite une carte de presse pour vous. Mais pour celui qui a fait l'université, qui a fait par exemple l'IFATIC, il fait un stage d'une année pour lui permettre, parce que vous savez que ce qu'on a appris à l'école n'est pas nécessairement ce qu'on applique sur le terrain.
Oui.
On vous donne une année pour vous retremper dans ce qui se fait dans une rédaction. Après une année, si le stage est concluant, on fait la même chose, on sollicite la carte et vous commencez. Et souvent, le directeur de rédaction et le rédacteur en chef sont censés être des professionnels rompus qui doivent à tout moment veiller à tous les écrits, à tout ce qui doit être diffusé. Et je me dis qu'à ce niveau-là, il ne faut pas seulement condamner le journaliste, il faut aussi condamner ceux qui la publication des reportages ou des articles des journalistes sur le terrain. Parce que le rôle, c'est ça. Corriger, accepter que tel article peut passer, dire que celui-là viole la déontologie. Il est aussi responsable lorsqu'il y a des dérapages. Voilà les conditions pour être journaliste.
Voilà.
Et aussi... les moutons noirs dont on parle, moi je ne sais pas comment ils font ces moutons noirs et par où ils passent. Moi, je ne sais pas exactement.
Voilà. Il y a aussi un problème de quelqu'un a parlé ici des médias qui ne font pas signer aux journalistes des contrats de travail. Ils ne sont pas sécurisés socialement. Bon, se laissent entraîner par cette pratique de coupage aujourd'hui que tant de personnes décrivent. Il y a aussi une certaine complaisance qui s'installe. Alors, comment résoudre ce problème, Monsieur Kasonga Tshilundé?
Effectivement, c'est un problème réel. Je me rappelle à l'époque, avec l'appui de Grec, une ONG belge, je crois, nous avions organisé un atelier et avions même produit un contrat de travail type pour la presse. Mais nous l'avons opposé aux responsables des médias. Ils ont estimé qu'ils ne peuvent pas le signer parce que les aides, les avantages prévus dans la loi ne sont jamais libérés par l'État. Et donc, si nous signons de tels contrats, ça veut dire que nous mettons la corde au cou. Et quand vous demandez aussi la signature des contrats de travail, comme on l'a dit ici, la plupart des médias sont détenus par les hommes politiques. Et ils font tout pour vous gêner afin que les contrats de travail ne soient pas signés. Vous allez même le voir, ils vous disent non, moi, si tu sois là, n'existe pas. Quand quelqu'un travaille, s'il estime qu'il n'est pas satisfait, il n'a qu'à partir. Alors maintenant, j'estime qu'il faudra maintenant qu'on nous donne l'occasion d'étudier tous ces problèmes, de prendre des décisions et de faire en sorte que si la justice est réellement libre, à ce moment-là, nous pouvons recourir à la justice qui peut nous aider à mettre de l'ordre dans le secteur, parce que de nous-mêmes, nous n'avons pas assez d'atouts pour y arriver.
Bien, merci Monsieur Joseph Boukar Kasonga Tshilundé. Je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale de la presse du Congo. Bonne journée.
Vraiment, monsieur.
Bien, on va accueillir Monsieur Boule Okwes. Il enseigne le journalisme, il est expert dans le domaine des médias et journaliste. Boule Okwes, bonjour. Charles Onana, Boule Okwes, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, s'il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique, nous allons le retrouver tout à l'heure. En attendant, nous allons vous proposer cet entretien que nous avons eu avec Charles Onana. Il est journaliste d'investigation franco-camerounais. Suivez. Charles Onana, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes politologue, journaliste d'enquête et essayiste franco-camerounais. La première question de savoir, c'est quoi le journalisme d'investigation?
Eh bien, c'est un genre journalistique particulier qui ne s'intéresse pas exclusivement à l'actualité. Ce n'est ni un reportage, ni un travail d'interview ou une couverture au jour le jour de l'actualité, c'est une recherche approfondie. Et qui dit recherche approfondie, dit consacrer du temps, rechercher de la documentation, travailler en profondeur sur le sujet pour bien le maîtriser et pouvoir rendre compte une fois que le travail de recherche est terminé et qu'il a été bien fait.
Pourquoi ce genre journalistique, journalisme d'enquête, je veux dire, n'est pas si développé dans nos pays africains ?
Ben, écoutez, c'est tout simplement d'abord parce que les pays africains, de manière générale, n'ont pas une tradition de liberté d'expression et de liberté d'écriture. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un commence à travailler ou à faire des recherches, même simplement quand il couvre l'actualité, s'il dit des choses qui ne plaisent pas au pouvoir, au régime en place ou à différents pouvoirs, eh bien, il sera automatiquement mis à l'index, harcelé, menacé, etc. C'est aussi lié à la façon dont nous concevons la contradiction dans ces pays-là. C'est-à-dire que, en général, on considère que le débat contradictoire n'est pas indispensable parce que celui qui parle ou celui qui est en position de parole, en général, a raison d'office. Et donc, lui porter la contradiction est déjà très mal vu, et révéler des choses qu'il dissimule, c'est encore beaucoup plus grave. Donc, c'est une conception des choses qui est un peu différente de ce qui se passe en Occident, ce qui ne veut pas dire que les Occidentaux sont meilleurs que les Africains pour ce qui est du débat contradictoire. Non, c'est tout simplement que on a accepté le principe, on l'a codifié et on permet également que les gens puissent dire ce qu'ils pensent, même si cela ne plaît pas toujours. En Afrique aussi, il y a des textes qui permettent cela, mais dans la pratique, c'est encore difficile à faire accepter et à faire admettre cela.
Quelles sont les exigences du journalisme d'enquête ?
Eh bien, ce sont les exigences du journalisme tout court, c'est-à-dire prendre le temps de faire son travail correctement, être compétent, avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle, je dirais un maximum d'honnêteté intellectuelle, parce que si c'est une enquête qui vise à mettre des gens en accusation ou en tout cas à exposer des faits qui sont des faits en général d'intérêt public. Lorsque vous mettez des gens, vous dites que vous révélez des choses, que ce soit sur les affaires de corruption ou de détournement de fonds publics, comme c'est le cas actuellement en République démocratique du Congo, eh bien, vous devez quand même avoir des dossiers extrêmement solides et surtout recouper vos informations au millimètre près. Parce que si vous commettez une erreur, eh bien, cette erreur peut être fatale pour la réputation de la personne, mais cette erreur peut également vous entraîner devant les tribunaux pour pouvoir expliquer pourquoi vous avez commis cette erreur. Donc, en réalité, évidemment, on prévoit que vous pouvez plaider la bonne foi, mais un bon journaliste ne commence pas par plaider la bonne foi, il apporte les preuves à ce qu'il avance.
Quels sont les bénéfices du journalisme d'investigation ?
D'abord, c'est un bénéfice pour toute la collectivité. D'abord pour le grand public qui veut savoir, il vote pour des dirigeants, c'est pour savoir si ces dirigeants travaillent correctement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il arrive parfois que des dirigeants eux-mêmes ne soient pas tout à fait au courant de ce qui se passe dans les dysfonctionnements de l'appareil d'État ou d'un certain nombre de dysfonctionnements dans la société. Le bénéfice du journalisme d'enquête, c'est que lorsqu'un journaliste a consacré du temps pour faire ses recherches, comme je le dis toujours, d'intérêt public, apporte des révélations, très souvent les autorités ont la possibilité soit d'intervenir sur une affaire grave, soit de corriger des dysfonctionnements, soit d'aider à améliorer le fonctionnement des choses. Donc, c'est un travail qui est avantageux aussi pour les journalistes eux-mêmes, parce que ils prennent l'habitude de travailler avec beaucoup d'exigence et beaucoup de rigueur, et ils ne se jettent pas au premier scoop sans le vérifier, en pensant que il est pour eux intéressant de se montrer ou de se faire voir. Le journalisme d'enquête n'est pas quelque chose qui est fait pour se montrer, mais c'est fait pour apporter quelque chose, une plus-value à la société.
société. Et donc, on n'a pas besoin nécessairement de faire de l'esbrouffe dans ce genre-là. Donc, toute la société a intérêt à avoir du journalisme d'enquête de qualité et surtout d'avoir son existence parce qu'il participe au bon fonctionnement des institutions et aussi à la bonne qualité d'information et des citoyens et des dirigeants politiques. Mais il faut que tout le monde le comprenne. Il faut d'abord que les dirigeants le comprennent et que ils ne considèrent pas d'emblée un journaliste d'investigation comme un adversaire, comme un ennemi politique ou comme leur adversaire politique.
Pour terminer, quel message vous pouvez adresser à vos confrères journalistes congolais à l'occasion de la journée de la liberté de la presse autour du thème « journalisme sans crainte ni complaisance » ?
Ben, je leur dirais d'abord que ils ne doivent pas avoir peur. C'est-à-dire que la peur est toujours très mauvaise conseillère. Et malgré les pressions, le harcèlement, je dirais même parfois les assassinats de journalistes, on ne doit pas être impressionné. Vous savez, on peut vous tuer pour n'importe quoi, pour un accident de la route, pour n'importe quoi. Donc ça ne doit pas être le motif de résignation, un motif de résignation ou de renoncement. Bon, premièrement, la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, quand même, vous savez, la tragédie que vit le peuple congolais, notamment à l'est du pays et dans une bonne partie du pays, oblige les journalistes à être en première ligne. Et être en première ligne, ce n'est pas être des gens exceptionnels, c'est tout simplement que ils doivent prendre conscience qu'ils ont une grande responsabilité qui est la même que tous les autres citoyens. Mais au moins, dans le périmètre qui est le leur, c'est-à-dire l'information, ils doivent faire le maximum pour que le peuple congolais soit mieux informé. Et plus le peuple congolais sera informé, mieux informé, et plus les journalistes participeront, n'est-ce pas, à ouvrir davantage les serrures fermées de la démocratie, et aussi plus le monde sera édifié et comprendra ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et je pense que ça, c'est très important, à la fois pour les Congolais et pour les amis du Congo.
Charles Onana, politologue, journaliste d'enquête et essayiste franco-camerounais, merci.
Je vous remercie.
Radio Okapi. Mbandaka. Okapi. Sur 103 FM.
Okapi. Bien, nous avons en ligne le chef des travaux Boulokwes. Il est journaliste et expert média. Monsieur Boulokwes, bonjour.
Bonjour, Jody Karma.
Voilà, le monde a célébré hier la journée de la liberté de la presse. Quel état des lieux vous faites aujourd'hui de cette liberté en RDC?
On pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine contradiction entre la volonté, notamment des dirigeants actuels, de pouvoir mettre la presse au devant de l'actualité, d'en faire véritablement un quatrième pas entre cette volonté politique déclarée et la réalité de terrain. Je crois qu'il y a un écart certain, parce que je me rappelle qu'il y a une année, lorsque le chef de l'État est venu répondre à l'invitation des journalistes, lui ont remis quand même un cahier des charges qui montrait, qui disait l'ensemble, disons, de ce qu'ils ont comme problème. Mais jusque-là, l'impression que dans les vécus quotidiens, dans la politique générale, dans la mise en place des politiques générales du pays, c'est comme si les médias n'avaient pas encore pris leur place et que n'étaient pas considérés. Ça, c'est la première chose à dire. Et donc, sur le terrain, on a l'impression que c'est la même chose. Toutes les années, c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup de changements dans la manière d'agir des journalistes, non plus beaucoup de changements dans la manière de leur prise en charge, que ce soit par les organisations professionnelles, que ce soit par les pouvoirs publics. Lorsque je parle des pouvoirs publics, je vois le côté exécutif, mais je vois également l'organe de régulation qui devait prendre en charge une bonne partie de ce que font les médias, mais c'est comme si, sur le plan général, l'État n'a pas su capitaliser le changement que l'on a connu sur le plan, disons, politique, pour pouvoir vraiment ramener la presse à son vrai rôle, à son rôle d'être un pouvoir qui contribue à l'avancée, aux avancées démocratiques.
Alors, vous avez certainement suivi cet entretien avec le journaliste franco-camerounais Charles Onana. Quels sont les préalables aujourd'hui pour que le journaliste exerce son métier sans crainte ni complaisance? On a parlé particulièrement du journalisme et d'investigation.
Oui, j'ai suivi tout à l'heure Charles, je voulais le saluer là où il est. Et écoutez, Le journalisme, comme il a dit, c'est d'abord le journalisme, d'abord. C'est d'abord les principes généraux du journalisme. Mais le journalisme d'investigation, ça veut dire qu'on va au-delà, on va pouvoir essayer de prendre ou de voir les choses qui ont été cachées, les choses que les gens ne voient pas à première vue. On essaie d'aller en profondeur pour essayer de découvrir. Nous avons appris tous à l'école que l'enquête, ça veut dire, c'est une technique qui vous permet d'aller chercher l'information qui est cachée. Ça peut être que délibérément caché, ça peut être que, simplement, les gens n'ont pas regardé, n'ont pas creusé de ce côté-là, mais que la vérité existe. Les préalables, c'est d'abord d'avoir un environnement qui permette, non pas seulement la liberté qui est proclamée dans tous les instruments, la Constitution et la loi de 1996, mais également avoir effectivement l'accès aux sources d'information. Parce que la plupart des pays où le journalisme d'investigation se réalise correctement, c'est des pays où on a autorisé l'accès à l'information à tout le monde. Et chez nous, ce n'est pas facile. Et donc la première condition, c'est que le journaliste soit effectivement capable d'avoir l'information. Parce que s'il n'est là pas, si cette information est tout le temps cachée et qu'il n'a pas la possibilité d'y aller, on va retomber dans les infractions. C'est la diffamation, c'est vouloir divulguer les secrets d'État, c'est secret sécurité. Mais si toutes ces informations-là sont déclassifiées, deviennent du domaine public, si on peut avoir la possibilité de pouvoir avoir ces informations, d'avoir accès déjà, ça sera la première condition. La deuxième condition, c'est que les entreprises de presse, il n'en existe pas beaucoup, il y a quelques organes de presse, mais pas beaucoup d'entreprises, puissent donner les conditions de travail aux journalistes. Ne fais pas l'enquête qui veut, fais l'enquête qui peut. Ça demande les moyens, parce qu'il faut investir en termes de documentation, en termes de recherche des sources, en termes de temps. Il faut avoir du temps. Et si on n'a pas les moyens, on ne pourra pas faire un journalisme d'investigation qui vaille la peine. Et donc les entreprises devraient pouvoir investir de l'argent, devraient pouvoir mettre les journalistes dans des conditions de travail maximales, leur donner les moyens qu'il faut. Aujourd'hui, par exemple, les moyens de vérification de l'information. Un journaliste ne peut pas aller chercher l'information sans avoir la possibilité de contacter des sources contradictoires. Voilà. Et donc, lorsque ces conditions sont réunies, avec un bon professionnalisme, comme l'a indiqué tout à l'heure Charles Onana, on peut exercer un journalisme d'investigation qui vaille la peine. Voilà, c'est cela un peu globalement.
On va accueillir Safari depuis Iga Barrière, en Ituri. Bonjour Safari.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Quelle est votre bienvenue, quelle est votre préoccupation Safari?
Ok, d'accord, je vais faire... une histoire de ma vie. Au fait, avant, j'étais enseignant. Cette fois-ci, je n'enseigne plus. Monsieur le journaliste, il m'arrivait que un cours que je préparais, si je le préparais mal, hein, donc, le cours que j'ai mal préparé, je ne l'ai fini pas bien. Alors, par contre, le cours que j'ai bien enseigné, plutôt que j'ai bien préparé, j'ai parvenu à l'enseigner avec du succès. C'est pour dire, si vous faites une chose et que vous étiez bien formé, je pense que vous n'aurez pas 13. Vous allez enseigner d'une manière vraiment, ça va plaindre à tout le monde, et puis même les médias, et pour mon cas qui était les élèves, ils pourront bien vous camper. Alors, cette idée-là, ça me renvoie à poser une question. Quelle est la différence entre un animateur et puis un journaliste? Et alors, pour devenir un journaliste, il faut combien d'années d'études? Et puis pour devenir un animateur de la radio, on doit faire combien d'années d'études? Voilà, c'est ça ma préoccupation. Et puis, je salue enfin mon papa Christophe Ablou, quoi.
Bon, Safari, il ne faut pas profiter pour saluer ou faire des dédicaces. Merci d'avoir appelé. Gloire, Arsène, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jordi et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue Gloire depuis Lubumbashi. Quelle est votre préoccupation par rapport au thème du jour?
Bon, je n'ai pas une préoccupation, mais je voudrais un peu apporter ma contribution et donner aussi mon état des lieux, quoi, de la situation du journalisme au Congo. C'est toi Lubumbashi où moi je suis. Tout à l'heure, dans la première heure de cette émission, nous avons suivi les témoignages des différents journalistes ici, notamment des la chaîne Malaika Télévision, qui est l'une à pouvoir nous fournir un travail de titan, et où on sent quand même qu'il y a du professionnalisme dans ces domaines. Mmh. Mais par contre, il y a d'autres chaînes ici où on n'accorde pas un espace d'expression aux journalistes. C'est-à-dire, on ramasse tout celui que l'on peut, et il passe à la chaîne des télévisions pour nous présenter. Généralement, il y a des émissions des publicités, des émissions publicitaires. Et c'est là, c'est ça qui domine ici à Lubumbashi, quoi. Donc, les chaînes là qui sont là, pour nous fournir des informations telles qu'il les faut, elles sont presque moindres. Et cela me pousse à dire que le domaine du journalisme est à la fois un domaine professionnel et aussi parcellaire. Professionnel, c'est parce qu'il y a quand même des gens qui sont passés sur les bancs universitaires et qui ont fait ces domaines-là et qui sont aptes d'y travailler. Parcellaire parce que, bon, ça c'est pas seulement une situation locale qui concerne des pays, mais même dans le monde entier. C'est-à-dire, il y a de ces gens qui se sont retrouvés journalistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une expression, ils ont la maîtrise de la situation, mais pourtant ils proviennent de différents domaines de la vie intellectuelle. C'est-à-dire, il y a deux médecins, même sur Radio France Internationale, il y a souvent des consultants, il y a souvent des attachés de presse, il y a des journalistes qui ont fait autre domaine que le journalisme, mais qui se retrouvent en train de faire cela.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'ils en ont quand même des capacités. Donc, le domaine journalisme au Congo est à la fois parcellaire et aussi professionnel, ce qui n'est pas du tout très mal. Alors, ce qui inquiète beaucoup plus, c'est quand on n'est pas mieux recyclé. Donc, il manque un recyclage. Je suis vraiment désolé de l'information que nous bénéficions. Pourquoi? Parce que c'est là qui nous les apporte ne sont pas vraiment munis. On dirait quelqu'un qui n'est pas passé sur les bancs de l'école. D'abord, une très mauvaise expression. Et pour mieux arriver à juger un journaliste, il faut lui donner de l'espace. Mais comment voulez-vous qu'un journaliste s'exprime si sur toutes les chaînes, il n'y a que des panneaux publicitaires, il n'y a que des annonces publicitaires? Je fais d'abord coup de chapeau à la radio Capi et à d'autres chaînes que j'ai connues parce que nous avons les soucis de nous réveiller le matin et d'allumer nos radios et de commencer à suivre parce qu'on sait qu'il y a la fiabilité, il y a de la bonne chose. Mais les autres chaînes de télévision ou des radios, c'est vraiment déplorable. Du moins, je demanderais qu'il y ait les recyclages. Si peut-être les autres intervenants se plaignent pour dire que beaucoup de chaînes appartiennent aux politiciens,
nos hommes politiques,
appartiennent aux commerçants.
Oui.
Oui, c'est bien, mais je propose qu'il y ait des inspecteurs médiatiques. Les standards doivent être les mêmes. C'est comme moi. Au départ, j'avais le souci d'être journaliste parce que ça me plaisait et j'arrivais à mieux faire ça à l'école. Et plus j'ai grandissé, alors j'ai découvert que c'est un domaine où n'importe qui pouvait amener son information. Quelqu'un qui pouvait faire de la mécanique, qui se réveille aujourd'hui, il est pris, il est embauché là-bas.
Gloire, vous proposez qu'il y ait
l'information qu'il produit.
Vous proposez qu'il y ait des inspecteurs médiatiques. Hein, quel sera leur rôle?
Bon, le rôle, c'est voir si le travail est fait correctement. Est-ce que les principes du journalisme sont respectés? Si je peux comparer le journalisme à un autre domaine, je prends la médecine par exemple. Nous avons des inspecteurs médicaux qui passent dans des hôpitaux pour voir si la prise en charge qui bénéficie les patients sont presque telles que recommandées par les programmes.
D'accord.
Donc vous allez vous rendre compte que dans les médias, ça ne se passe pas.
D'accord, merci.
Et puis, je suis en train de finir par là.
Oui.
Je ne me rappelle pas une fois où j'ai vu une chaîne de télévision ou des radios lancer des offres d'emploi. Je ne sais pas, les journalistes, ils sont recrutés où? Les journalistes, comment ils se retrouvent? Comment ils sont journalistes? En tout cas, c'est déplorable. D'où je finirai par dire, si on connaît bien son travail, on ne va pas se sentir complexé, quels que soient les milieux où on va, quels que soient les domaines ou les secteurs dans lesquels on va œuvrer. Si on reconnaît bien son travail, on va le faire aussi parfaitement sans crainte.
Merci,
mais
Gloire.
Parce que nous puissions douter, c'est ça, le manque du professionnalisme. Il n'y a pas du professionnalisme.
Merci bien. On va donner la parole à Justin depuis Fungurume. Bonjour.
Bonjour mon ami, je dis Daniel Kachama et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Justin?
Je vais entrer en matière par trois petites questions.
Oui.
La première, je voulais savoir
un président d'une corporation de journalistes doit forcément avoir une chaîne, ou soit ton père amassait quelqu'un qui n'a pas une chaîne, mais qui s'y connaît bien. Ça, c'est un. De deux, que doit-on faire quand on trouve un journaliste avec une fonction dans un parti politique? Et les gens locaux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Nous, qui s'intéressent d'être journalistes, qu'est-ce que nous allons faire? Et pour terminer, la question, c'est comment peut-on faire parvenir les dérapages des journalistes dans les fins fonds du pays à l'UNPC? Ça, ce sont des questions. Alors, je pourrais répondre tout droit à votre question et de travailler dans, de faire notre métier sans crainte et complaisance. Ça revient seulement à nous-mêmes, les journalistes, d'honorer et orner notre métier. Je vous dis, monsieur, je dis, il y a un directeur de programme, il y a des directeurs de programme ici à Fungourou, mais je ne sais pas s'ils avaient même décroché un brevet de l'école primaire. Mais il s'est dit, journaliste ou soit un directeur de programme, qu'est-ce qu'il va programmer? Et les promoteurs des chaînes de radio ont déjà des partis pris. Il va créer ou soit fonder sa chaîne pour telle ou telle mission, peut-être pour faire des campagnes électorales, ou soit c'est un pasteur qui cherche à évangéliser pour que tout le monde écoute. Alors, en laissant seulement sa chaîne dans l'évangélisation, et lui aussi va prendre les émissions politiques, en ajoutant et en mettant le gens, peut-être c'est un chantre qui entonne bien les chansons à l'église, et à un moment donné, en voulant se faire populaire,
oui,
lui aussi commence à prendre des émissions de émissions politiques.
Merci Justin, merci Justin. On va donner la parole aux autres, vous êtes nombreux à vouloir participer dans cette émission. Et Céphas, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody.
Comment exercer le métier des journalistes sans crainte ni complaisance? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci Jody pour cette occasion que vous m'accordez à m'exprimer sur votre chaîne. Je pense que par rapport à la thématique du jour, aujourd'hui dans le métier du journalisme, il y a trop de complaisance, nous assistons à cela. Nous qui apprenions déjà ici dans des universités, je pense qu'il y a un travail à faire. Le président Tshilunde a parlé d'ici tantôt. Il a exposé les arsenales juridiques, mais il y a un problème par rapport à la transcription, par rapport à la transmission de tous ces arsenales juridiques, afin que les étudiants qui apprennent déjà au niveau des universités et des instituts comprennent toute cette complexité-là. Vous allez voir, aujourd'hui, dans nos universités, il y a des professeurs en sciences de l'information et de la communication qui viennent avec des théories, mais qui se compliquent eux-mêmes. Vous allez voir un professeur parler de droit de la presse et l'autre qui vient, qui contredit et qui dit non, il ne s'agit pas de droit de la presse, mais de la liberté de la presse et de droit de communication et information.
Oui.
Donc, vous voyez, tout ça, il y a un travail pour que nous nous démarquions de cette complaisance-là. Moi, je voulais, si le président Tshilunde et toutes les personnes qui nous suivent, qui sont des secteurs,
oui,
je ne sais pas si au Congo, si nous voulons parvenir vraiment à nous écarter de la complaisance et de la crainte, on doit revoir le métier vraiment à fond, même au niveau de l'apprentissage. Vous voyez, vous venez en G1, par exemple, à l'école de journalisme, vous trouvez avec un nombre de plus de 500, 600 étudiants avec les conditions précaires d'apprentissage. Donc je me demande, est-ce que tous ces étudiants ici, c'est vraiment quelque chose de rêve, de passion pour aider un jour leur pays en faisant le journalisme, parce que c'est un métier noble, c'est quelque
Merci.
Chose qu'on doit vraiment apprendre avec
Merci,
beaucoup
Céphas.
De délicatesse.
D'accord. Merci Céphas de Kinshasa. Nous allons retrouver tout à l'heure Monsieur Boulokwes. Avant cela, nous allons accueillir le ministre Monsieur Jolino Makelele, ministre d'État et ministre de la Communication et Médias. Monsieur Jolino, bonjour.
Bonjour.
D'accord. Restez en ligne, le temps de finir avec le chef des travaux Boulokwes, journaliste et expert média. Monsieur Boulokwes, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs qui viennent de poser des questions?
J'ai suivi toutes les questions, elles sont pertinentes, elles sont intéressantes, mais on peut les résumer en disant qu'effectivement, le métier de journaliste, on peut l'apprendre sur le tas, on peut également l'apprendre, on devrait pouvoir l'apprendre au lieu qu'il faut, ça veut dire on peut aller à l'école, on peut aussi l'apprendre sur le tas. Le grand problème, c'est que quand on est dans une université, dans une école qui enseigne le journalisme, on donne les principes généraux, ça veut dire des principes universels. Mais c'est généralement dans la mise en pratique de ces principes-là que nous rencontrons le plus grand nombre de problèmes. on peut bien vous apprendre comment faut-il faire une chaise comme charpentier, mais dans votre pratique, quelles sont les astuces de votre pratique, surtout là où vous allez en stage, surtout les maisons de presse que vous allez, où vous allez travailler, quelles sont les pratiques de terrain qui devraient pouvoir vous permettre d'avoir une pratique efficiente. C'est la différence que l'on peut faire entre votre radio, Radio Okapi, des bonnes radios qui sont à Kinshasa, et celles qui ne parviennent pas à décoller. Et pourtant, M. Jody Kachama, vous-même et beaucoup d'autres, avez reçu la même formation. Mais pourquoi ceux-là, dans les radios où ils sont, ils ne parviennent pas à rendre le service qui est demandé par rapport au grand public, je l'ai dit. D'abord, ce sont les conditions de travail qu'ils ont, mais c'est aussi l'équation personnelle. Est-ce que c'est le métier qu'ils devraient faire? Est-ce que ce n'est pas des personnes qui sont venues faire un métier qui n'était pas les leurs? Voilà, globalement, c'est cela. Deuxièmement, c'est la structuration du métier. Je vais le répéter, le président de l'UNPC est à l'antenne, ou est en train de suivre. Est-ce que notre profession, c'est encore mieux structuré qu'avant? Ça veut dire, a mis en place des mécanismes. Si ces mécanismes existent, est-ce que les journalistes eux-mêmes, ceux qui pratiquent, est-ce qu'ils les respectent? Par exemple, pour l'entrée dans le métier, est-ce que ceux, les opérateurs des médias, est-ce qu'ils respectent? Lorsqu'ils ne respectent pas, qui leur rappelle à l'ordre? Est-ce qu'il y a quelque part un endroit où on les rappelle à l'ordre? L'organe qui devait peut-être le faire, qui devrait pouvoir le faire, c'est le CESAC. Mais est-ce que le CESAC, on lui a donné la possibilité de le faire? Est-ce qu'on lui a donné les moyens de le faire? Est-ce que le CESAC a des représentations sur l'ensemble du pays? Ainsi de suite. Est-ce que les médias eux-mêmes se conforment à ce qui est édicté par les lois du CESAC? Tout cet ensemble de considérations peut faire en sorte que le ministre qui va intervenir tout à l'heure, que l'on puisse organiser un type des états généraux des médias où ça ne sera pas le qui sera dicté, non, que l'on laisse alors les journalistes, les vrais, les médias, parler entre eux, voir leurs problèmes, arriver à des solutions. C'est bien beau tout ça, mais que ce soit appliqué pour une fois. Parce que les résolutions, c'est bien beau, mais si on ne les applique pas, à quoi ça servirait de faire des instances alors qu'on ne leur donne pas les moyens, parce que le CESAC, par exemple, est issu d'une analyse complète de la situation du pays. Oui. On a décidé de mettre en place une instance, mais qui n'a même pas donné les moyens de fonctionner. À quoi ça servirait de multiplier et des fois si on ne peut pas mettre en application? Voilà tout un ensemble de considérations qui peuvent ramasser toutes les préoccupations de nos auditeurs.
Merci Monsieur Boulokwes, chef des travaux Boulokwes. Je rappelle que vous êtes journaliste et expert dans le domaine des médias. Bonne journée.
Merci bien.
Bien, nous allons directement donner la parole au ministre d'État et ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele. Monsieur le ministre, le monde a célébré hier la journée mondiale de la liberté et de la presse. Quel état des lieux vous faites de cette liberté aujourd'hui dans notre pays?
Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Je dirais d'abord que je suis heureux du thème qui a été choisi, à savoir un journalisme sans crainte ni complaisance. Et par rapport à ce thème, d'abord, je dirais que nous avons mis, en tout cas depuis que nous sommes là, les conditions pour que, effectivement, le journaliste ici au Congo, journaliste étranger ou même nationaux, puisse exercer leur profession sans crainte ni complaisance. Sans crainte, c'est-à-dire que aucune institution, aucun établissement, aucune autorité ne peut entraver le travail du journalisme dès lors que ce travail est fait avec responsabilité. Et quand je dis sans complaisance, ça veut dire qu'il faut s'abstenir de beaucoup de subjectivité. C'est-à-dire, faire en sorte que lorsque l'on s'exprime, lorsqu'on écrit, on n'ait que la vérité comme prima et non pas la recherche du sensationnalisme ou la recherche d'une volonté de nuire. Et donc, dans ce sens-là, je pense que si pour la crainte, les progrès semblent être visible, pour la complaisance, j'ai quelques petits doutes, mais j'espère qu'avec cet événement, chacun aura à cœur de faire en sorte qu'il soit un peu plus responsable demain qu'hier.
Alors, dans votre discours à l'occasion de cette journée, vous avez cité Reporters sans frontières qui a dit que la RDC a réalisé une performance en gagnant 4 places sur le classement mondial de la liberté de la presse.
Oui, j'étais fier, je suis fier que ce soit
sous le leadership du président Félix Tshisekedi, que cela arrive. Ça n'est plus arrivé depuis très longtemps. Donc c'est la preuve que même la communauté internationale et même ceux qui sont les observateurs les plus indépendants finissent par voir les progrès que nous sommes en train de réaliser. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Lorsque le même classement sera établi, vous verrez que nous aurons encore fait du progrès, parce que tel est mon leitmotiv, et de faire en sorte que les journalistes fassent leur travail correctement et en toute liberté, mais en toute responsabilité également. Je l'ai dit dans mon message également. Et il va falloir que chacun de nous puisse s'imprégner de la responsabilité qui est la sienne par rapport à la vie privée des gens, par rapport aux institutions, etc. Donc il nous faut, lorsque le journaliste fait des investigations, il faut qu'il soit solide, il faut qu'il soit critique, et fasse l'autocritique de ce qu'il fait, de sorte que lorsqu'il livre l'information, cette information ne soit pas sujette à beaucoup de débats ou de discussions quant aux intentions qui ont pu animer le journaliste. Et donc, moi, je veillerai à ça. Pour le reste, pour le surplus, j'ai dit que j'attendais qu'on se retrouve tous autour des états généraux de la presse que j'entends.
Voilà, c'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Le chef des travaux au boulet est revenu là-dessus. Est-ce que le gouvernement, vous êtes prêt quand est-ce que vous comptez organiser ces états généraux de la presse?
Les états me concernant ont déjà été transmis au gouvernement. Le Premier ministre lui a réservé un accueil favorable à cette initiative. Maintenant, il reste les procédures gouvernementales normales, c'est-à-dire ça va passer à la commission politique. Et de la commission politique, ça reviendra au niveau du Conseil des ministres et pourra être débattu. Mais tout cela était déjà en voie, ceci n'eût été le coronavirus. Mais je pense, et le Premier ministre me soutient là-dessus, a demandé à ce que les commissions se réunissent, même dans les conditions coronavirus, très rapidement, de sorte que d'ici dans très peu de temps, on puisse déjà avaliser ce projet et que plus tard les moyens soient disponibilisés, aussi bien en interne qu'en externe, pour faire ce travail. Moi, je pense que ce sera un moment de vérité pour le journalisme du Congo, parce que j'y convierai les professionnels de la presse, certes, mais aussi des universitaires, des parlementaires, des magistrats, et même des journalistes étrangers, et des organes, des agences étrangères, pour que tous nous réfléchissions sur ce qui mine la profession journalistique et surtout l'information et la manière de la proposer. Nous avons des structures comme la RTNC, etc. Il faut s'interroger sur le maintien d'une structure comme celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas des progrès à faire? Il n'y a pas à bien recadrer l'émission de la télévision, de la radio nationale. De tout cela, on va parler sans tabou. Et moi, j'ai fait la promesse que je réaliserai toutes les recommandations qui seront faites de manière telle que on ait un paysage audiovisuel et un paysage de la presse rénové.
Et comment comptez-vous soutenir les médias, les journalistes, pour qu'ils fassent leur travail sans crainte ni complaisance dans un contexte marqué par les fake news, surtout dans les réseaux sociaux?
Oui, c'est vrai qu'il y a deux aspects dans votre question. Il y a les fake news, c'est justement ce qu'il ne nous faut pas. C'est-à-dire, c'est pas du journalisme, parce que lorsque on fait du fake news, c'est-à-dire qu'on est intéressé à soutenir une thèse ou une idée, alors même qu'on sait que cette idée peut prêter à interprétation ou qu'elle n'est pas du tout bonne. Et ça, c'est un deuxième. Et donc, il nous faut faire en sorte que dans nos réflexions, nous puissions arriver à voir comment pas museler, mais comment faire en sorte que cela se reproduise rarement, les fake news. En tout cas, les réflexions seront là, parce qu'il y aura aussi des ingénieurs, des scientifiques qui nous vont nous montrer comment agir pour contrer ce genre de choses. Mais il y a aussi l'aide à la presse. L'aide à la presse, je tiens beaucoup à cela. Je voudrais que lorsque nous aurons terminé nos états généraux et que nous aurons pris les résolutions, dont j'imagine qu'elles iront certaines dans le sens d'aider davantage la presse, que je veillerai à ce que moi, auprès du gouvernement, j'arrive à soutenir l'aide qui pourrait être allouée à la presse.
Alors pour terminer, Monsieur le Ministre, un message à tous les journalistes congolais qui vous écoutent en ce moment à l'occasion de cette célébration.
Et avant de leur souhaiter une bonne fête, je dis d'abord que je suis de plus en plus fier d'eux
et les classements dont on a parlé tout à l'heure est une illustration. Mais je nous invite encore à plus de responsabilités et donc que chacun essaie de balayer devant sa porte et qu'on évite les règlements de comptes, qu'on évite les sensationnalismes et surtout qu'on aille toujours à la recherche de la bonne information et que l'on critique les sources d'information pour le surplus. Mais mon cabinet reste ouvert comme d'habitude à tous les journalistes qui veulent bien me voir pour échanger éventuellement sur des sujets. C'est ça ma méthode.
Jolino Makelele, ministre d'État et ministre de la Communication et Médias, merci.
C'est moi qui vous remercie.